Bonjour, ce message audio, proposé par l'église Hosanna, a été enregistré en public lors de l'une de nos célébrations. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site sur le www.eglisehosanna.com. Vous pouvez nous contacter par courriel à info@eglisehosanna.com ou nous appeler au 02 62 59 66 15.
Ce message vous est prêché par le pasteur Bruno Picard.
Bonne écoute.
Je suis extrêmement heureux de vous voir ce matin. J'ai été extrêmement béni par la fête des mères dimanche dernier qui était présent. Avez-vous été béni par cette réunion? Amen. Dieu était présent, Dieu nous a touchés, nous a fortifiés. Nous sommes en marche vers une vie transformée. Rappelez-vous qu'en 2011, nous travaillons sur les cœurs, nous travaillons sur les mariages, nous travaillons sur les couples. La prochaine série sera la famille. Comment comprendre la famille? Quel est le but d'une famille? Comment travailler avec nos enfants? Comment faire en sorte que nos enfants soient heureux chez nous? Je ne sais pas si pour vous c'est important, mais pour moi c'est important que mes enfants soient heureux chez moi. Et malheureusement, bien souvent, les enfants semblent plus heureux ailleurs que chez moi. Et cela n'est pas normal. Nous devrions, en tant que famille chrétienne, avoir les enfants extrêmement heureux chez soi. On va voir ensemble comment travailler là-dessus. Et puis, on va finir l'année avec une série extrêmement importante pour l'Église. Le nom de la série, c'est « Comment devenir une Église irrésistible ?» Comment être une Église irrésistible ? Et on va aborder 12 sessions par la grâce de Dieu où on va voir ensemble quelles sont les valeurs qui feront que l'Église sera irrésistible. Et pour donner un exemple concret rapidement, hier, nous avons été contactés par une des responsables de la... De la mairie qui nous a appelé en nous disant voilà, j'ai un petit problème, j'ai un petit souci, il doit y avoir aujourd'hui à la mairie une journée porte ouverte avec l'armée. Malheureusement, dû à un problème de communication, aucun jeune n'est venu. Et donc l'armée était là, le caporal, général, admiral, d'accord, tous les râles, donc ils étaient tous là. Et le problème, c'est qu'il n'y avait personne. Et donc, ce qui m'a étonné, c'est qu'ils ont pensé à nous. Ils nous ont appelés en disant, nous savons qu'à Hosanna, il y a beaucoup de jeunes. Est-ce que ça ne vous dirait pas de venir faire un tour à la mairie pour au moins faire acte de présence? Donc, même Steve est devenu jeune, Pasteur Steve. Les gars, ils ont pris pour un fort spécial. Il est arrivé comme ça, tu sais, hop. Et donc, ils sont allés avec une dizaine de jeunes. Et malheureusement, c'était trop tard. Ils nous ont appelés à 10h30 pour être présents avant midi. On veut bien faire des efforts, mais là ça va être chaud. Donc on est quand même, une partie du groupe jeune est parti faire un tour. Et les gens étaient très touchés. Et parmi les corps de l'armée qui étaient là, deux des responsables, l'armée de terre, je crois, et l'armée de l'air. Ces deux râles, hein, caporal, admiral, je ne sais pas quel grade c'était, d'accord. Ces deux leaders-là nous ont proposé de venir faire des soirées ou des matinées portes ouvertes à l'église avec les groupes de jeunes pour parler un peu de l'armée. Parler de ce que sont les offres d'emploi dans l'armée, ce qu'une carrière dans l'armée peut apporter. Et je trouve ça extrêmement intéressant que ce soit l'armée qui dit « S'il vous plaît, organisez un truc pour nous, on viendra. » Et le gars disait à Steph « Parce que moi, je suis un gars de parole, moi. Je suis un gars de parole. » La mairie, bref, nous sommes aussi des gens de parole. Donc on va organiser ça avec donc tous les jeunes que vous connaissez, ceux qui sont au chômage, jeunes des quartiers, on fera une grosse fête spéciale. On invitera le maximum de jeunes à venir écouter des gens de l'armée. Dans une église, Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. Ne manquez pas les dimanches qui suivent parce que Dieu a commencé une œuvre extraordinaire. Et Dieu voulant, je vous en parlerai au bon moment. Mais seul Dieu peut faire ces choses-là. Et en tout cas, je peux vous dire que l'église à La Réunion est en train de changer. L'église à La Réunion est en train de changer. Amen. Donc, ce matin, nous allons commencer... Continuez plutôt la série sur le mariage. Donc accrochez vos ceintures, c'est un genre de test pour savoir un peu où on en est. Et j'aimerais vous dire s'il vous plaît qu'il est impossible, que ton mariage change si tu ne mets pas en pratique les messages qui sont enseignés. Ça ne sert à rien de venir uniquement le dimanche, écouter une fois le message et rentrer chez soi. Ça ne changera pas ton mariage. Ce qui va changer ton mariage, c'est si tu prends les notes du dimanche, elles sont sur Internet, sur le site de l'église. Vous pouvez appeler le bureau, avoir les notes. Vous venez en groupe de maison, vous discutez ensemble. Mais ce qui va changer ton mariage, c'est que si toi et ton mari, en tout cas toi, si ton mari n'est pas chrétien ou ton épouse n'est pas chrétienne, si tu t'assois devant la parole de Dieu et tu commences à travailler sur ton propre cœur, change ta vie. Deviens le changement que tu veux voir dans ton mariage. Amen. Il est important parce que parfois je suis frustré, et je pense que Steph c'est pareil pour lui, quand on voit des couples ou des gens qui viennent nous voir après la série sur le mariage en disant « Mon mariage ne va pas bien, que dois-je faire ?» J'ai envie de lui dire « Reviens à l'église 3 fois de suite. Réécoute les messages, reprends les notes, relis les notes, étudie, travaille là-dessus, et tu vas voir que si tu mets cela en pratique, ton mariage changera. Tu ne peux pas devenir bon quelque part sans entraînement et sans pratique. J'écoutais un gars qui s'appelle Kilian Jornet. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, mais bon, c'est pas grave. C'est l'un des meilleurs coureurs de trail au monde. Et ce gars-là, il m'a choqué hier parce que j'écoutais un peu ce qu'il disait. Ce gars-là, tout le monde connaît un peu la montagne du Kilimanjaro. Okay, Kilimanjaro, c'est 5900 mètres d'altitude. C'est haut, très haut. À 5000 mètres d'altitude, tu as vraiment du mal à respirer. Et cet homme-là, Kilian Jornet, un jeune gars, lui, en général, quand vous montez le Kilimanjaro, il vous faut entre 6 et 10 jours pour monter. 6 à 10 jours. Et Kilian Jornet est monté au sommet en 7h23. Ouais. Quand son cœur bat à fond, son cœur bat à 205 pulsations par minute. Mais quand son cœur est au repos, le matin quand il se réveille, son cœur bat à 35. C'est un extraterrestre. Et on lui demandait comment il fait. Et j'ai écouté attentivement, j'ai regardé la vidéo 19 fois. Il disait entraînement, 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 tous les jours, entraînement. Il disait, je ne sais pas si c'est chrétien, mais il disait je traite durement mon corps. J'ai dit, ouh, Paul. Il s'entraîne, il mange bien. Il mange pas de cochon tous les jours, non. Il mange bien, il se repose bien, il s'entraîne tous les jours. La vie chrétienne, c'est pareil. Tu peux pas changer ton mariage, ta famille, ton couple, ton cœur, simplement en écoutant une fois Kilian Jornet. Simplement en écoutant une fois le pasteur le dimanche. Tu dois prendre les notes et t'entraîner, t'entraîner, t'entraîner. Tous les jours. Oula, merci Colette. Si je devais payer Colette pour les amens qu'elle disait, je t'ai ruiné aujourd'hui. Construire son mariage selon Dieu pour qu'il dure. Nous allons ce matin nous pencher sur trois stades, trois étapes du mariage. Et j'aimerais vous montrer que la plupart des mariages restent bloqués au stade numéro 2. Et je vais vous donner quelques mots-clés pour chaque étape, afin que vous puissiez discerner à quel niveau vous êtes. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Si vous n'êtes pas encore marié, écoutez bien cela attentivement, ça va beaucoup vous aider. Amen. Le premier verset ce matin, j'aimerais lire avec vous, c'est dans Proverbes 24, verset 3. Proverbes 24, verset 3 nous dit « C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. » Notre version dit « Par la sagesse, la maison est bâtie et elle est établie par l'intelligence. » Notre version dit « La maison sera bâtie par la sagesse, elle sera affermie par l'intelligence. » Qu'est-ce qui construit une maison ? La sagesse. Comment est-ce que tu as affermi, établi ton foyer ? L'intelligence, c'est bizarre. Tout le monde pense que c'est par l'amour seulement. Oh, il faut de l'amour pour réussir. Il faut des talents, il faut des dons. Mon ami, la parole de Dieu dit que c'est par la sagesse que tu construis ton foyer. Cela peut signifier en fait que tu peux être chrétien, né de nouveau, venant à l'église tous les dimanches, chantant des chants, priant tous les jours, et ton mariage peut quand même être détruit. Et je connais des chrétiens qui, malgré le fait qu'ils sont sur le chemin pour aller au ciel, on se sent marié et divorcé et marié et divorcé parce que ce n'est pas le fait d'être chrétien qui construit un mariage, c'est la sagesse. Bien sûr, le mariage chrétien signifie que ton mariage est entre les mains de Dieu, mais si toi et moi nous ne coopérons pas avec Dieu, notre mariage sera un mariage chrétien raté. Il arrive que des chrétiens ratent leur mariage. On est fou de croire qu'on peut réussir la vie avec le talent, le charisme, la tchatch, ou le physique, l'argent. Non, tu ne peux pas réussir ta vie. Les relations ne se basent pas sur l'argent. Les vraies amitiés ne se basent pas sur l'intelligence, dans le sens éducation, j'ai un diplôme Bac plus 12. Non, les relations se construisent sur la confiance. Et la confiance se construit sur des petites actions que tu fais tous les jours pour prouver que tu es digne de confiance. Ça, c'est être sage. Dieu nous dit, prends la sagesse, achète-la au prix de tout ce que tu possèdes. Femme, il vous faut beaucoup de sagesse pour rester mariée avec votre mari. Amen, on était bien sur ce coup-là, mais c'est pas grave. Marie, homme, il vous faut beaucoup de sagesse et de compréhension surnaturelle pour rester marié avec ta femme, oui ou non? Là, les hommes ont dit un amen de libération, tu vois. Ha. Amen. C'est à cause de notre ignorance. Écoutez bien, frère, ce matin. Le manque de bon sens. Et des fois, j'écoute les hommes. Dans mon bureau, souvent, ils viennent des couples. D'abord, on écoute la femme et la femme dit... Il ne me comprend pas. Il ne m'aime pas. Il ne m'écoute pas. Il s'en fiche de ce que je fais pour lui. Et voilà. Elle pleure. Le mari rentre après. Il fait tout va bien. C'est génial. Elle fait la ménage, la vaisselle, la cuisine. Elle débarrasse. Elle fait tout. Moi, je suis un gars blindé. Je suis content. Je suis cool. Je sors quand je vais avec mes copains. Tout va bien. Lui, il est dans le paradis. Elle est en enfer. Il y a une telle différence de vision sur le couple que la femme se demande si le gars est normal. Et le gars se demande si la femme n'est pas schizophrène. Et il se dit un coup elle est bien, un coup elle n'est pas bien, un coup elle est heureuse et un coup elle n'est pas heureuse. Dans la même journée, il peut avoir des changements d'humeur impressionnants chez la femme, dira l'homme. Parce que la femme, elle, se trouve que c'est normal. Il faut du bon sens. Il faut de la sagesse pour prendre du recul et savoir qu'est-ce qui se passe. Il y a trois étapes dans le mariage. La première étape, c'est la joyeuse lune de miel. Qui est déjà marié dans celui-là? D'accord. Qui n'est pas encore marié mais veut se marier? Qui ne veut pas se marier? Et en parlant, il n'y a pas d'âge pour se marier. Ce matin, je parlais à une femme en église, une sœur, qui me disait que sa grand-mère, âgée de 94 ans, est venue la voir pour lui dire « Est-ce que tu penses que je peux me remarier ?» 94 ans, apparemment la dame danse tous les dimanches au bal de la masquée, tu vois. Gloire à Dieu, moi je dis oui, vas-y, marie-toi. Fais des enfants si tu veux. Non, c'est trop tard. Écoutez bien ça ce matin. Je vais essayer, s'il y a des enfants, boucher leurs oreilles là, de temps en temps, d'accord. Mais malheureusement, on ne peut pas faire bip parce que hein, les enfants, donc dites attention, on n'écoute pas tout le temps ça, ok, mais c'est pas grave, trop jeune pour vous. Pour les gens matures et adultes, écoutez bien ça, Salomon a écrit le Cantique des Cantiques. Je trouvais ça impressionnant que le Cantique des Cantiques soit Henri Paul. T'es pas jeune, mon ami, tu peux ouvrir tes oreilles. Henri Paul bouche les oreilles, lui. Salomon a écrit le... je me tourne, il est comme ça. Le Cantique... Ta femme t'expliquera toi après, t'inquiète pas. Le Cantique des Cantiques, Salomon a écrit ça en parlant de sa femme. Et il a enregistré, si vous voulez, le rapport entre sa chérie et lui. Voici ce qui est écrit. La femme parle, elle dit « Moi, je suis une fleur qui pousse dans la plaine de Saron, un lys dans la vallée. Oui, comme un lys parmi des ronces et mon ami... » Là, Salomon parle. « Comme un lys parmi les ronces et mon ami parmi les filles. » Il compare les autres filles à des ronces. Quel amoureux, disent. Ça, c'est des ronces. Elle, c'est la fleur. « Comme un pommier parmi les arbres de la forêt et mon ami parmi les jeunes gens. Un grand plaisir à m'asseoir à son ombre. » Combien son fruit est doux à mon palais. Il m'a conduite dans la maison du vin. Il a déployé sur moi l'étendard de l'amour. Restaurez-moi avec de gâteaux de raisin. Soutenez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. T'as la fille amoureuse, elle est toquée sur un coup là. Écoutez bien ce qu'elle dit après. Elle dit, j'entends mon bien-aimé. Oui, le voici. Il vient sautant sur les montagnes et bondissant sur les collines. C'est l'image du mari qui rentre dans la chambre en caleçon qui fait, je suis prêt. C'est biblique, c'est biblique. C'est écrit là, hein, les hommes. Alléluia. Yeah. Eh bien oui, la femme dit, oh, viens m'enivrer, je suis malade d'amour. Le gars dit, j'arrive, tel un zèbre qui gambade dans la... Eh les gars, nous sommes des gambadeurs. La lune de miel, c'est le moment qui se caractérise par les mots suivants. Intensité. La parole. La passion. El fuego. Le feu. Le focus, tu ne vois qu'elle. Là, les autres femmes sont des ronces. Et le jour où tu dis à ta femme, chérie, Carla Bruni, Monica Bellucci, Jacqueline Favirol, ce sont des ronces par rapport à toi. C'est le moment où tu es absorbé par l'autre. Je n'ai Dieu que pour toi. Tu me rends fou. Je m'évanouis d'amour. Et qui s'appelle ce moment-là? Vous savez ce moment-là? Vous vous souvenez de ça? La fille t'appelle pas, tu 30 secondes passent, tu fais, elle me manque. T'es gars, ça va oublier, ça c'est grave. J'ai envie de la voir là, je peux plus, mais tu viens juste de la quitter, je sais. Il y a des moments, je quittais les parents enfin, chez Elodie, elle était chez ses parents. Dès que je passais le portail, mon cœur était déjà brisé. Comme Jérémy, mon petit frère, dernièrement, qui écrit sur Facebook, tout le monde est au courant maintenant. Sa chérie est en vacances, et il dit, je paraphrase, je sais plus ce que tu avais dit comme truc, mais c'était pas mal. Il disait, oh, quel que soit le bon repas de ma maman, c'est fade, c'est terne, j'ai plus faim, même le sport, j'aime plus. Je suis malade sans toi, reviens vite, mon amour. Ouh, ben les gars, là. Ben, c'est pas aussi beau que ça, mais parce que là, j'ai fait un rappelage, tu vois. Mais le fait est que c'est l'intensité. Oui ou non, c'est l'amour, la passion. Oui ou non, aidez-moi. La plupart des couples passent très vite le stade 1. Traversent le stade 1 avec un hors-bord. Le stade 1, c'est... Écoutez ça. Le stade 1, c'est l'idéalisme. Le partenaire, c'est aller sur un piédestal où il est, c'est le roi, c'est le gars le plus beau. Toutes ces copines, t'es sûr que tu l'aimes ce gars-là? Qu'est-ce que tu lui trouves? Mais tu rigoles ou quoi? Il est beau, il est grand, il est baraqué. On dirait, je sais pas qui d'ailleurs. On dirait Brad Pitt en brun, cafre. Mais c'est pareil. Et où Salomon continue? Il idéalise sa femme. Écoutez ça, la lune de miel, on idéalise l'autre. Quand il dit Cantique chapitre 4, verset 1, il dit « Que tu es belle, oh mon ami !» Que vous l'avez pas compris, il répète « Que tu es belle !» Et là, j'encourage tous les gars à draguer vos femmes comme ça. « Tes yeux ressemblent à des colombes de sous ton voile. Ta chevelure est comme un troupeau de chèvres. » Jérémy, ça marche. Ça marche. Et c'est biblique. Ta chevelure est comme un troupeau de chèvres au flanc du mont Galaad. Tes dents ressemblent à un troupeau de brebis passées aux mains des tondeurs qui reviendraient du lavoir. Ça, c'est de la drague. Chacune d'elles a sa jumelle. C'est la parole de Dieu. Je lis la Bible. Hein, oh. Écoute comment le gars décrit la dentition de sa femme. Tes dents ressemblent à un troupeau de brebis passées aux mains des tondeurs qui reviendraient du lavoir. Chacune d'elles a sa jumelle, aucune n'est solitaire. T'as pas de trou. Il veut dire, il n'y a pas de trou dans tes dents, quoi. C'est beau, Salomon déchire, mec. Le gars est off the wall, comme on dit. Il est vraiment à notre niveau, quoi. Voici tes lèvres comme un ruban écarlate. Combien ta bouche est charmante. Commence, non? Et tes tempes, le gars, combien de fois avez-vous parlé à votre femme pour décrire ses tempes? Le gars dit, tes tempes ressemblent à des moitiés de grenades. Ouais, il est content. Je suis content, c'est bien. Trop jeune pour toi, ok. Après, écoutez bien, si vous lisez Cantiques chapitre 4, le gars va décrire tout le corps de sa femme, commençant du haut jusqu'en bas. Sérieux. Moi, ce matin, à cause des âmes sensibles et Henri Paul, je m'arrêterai au cou. Hein? Il dit, ton cou ressemble à la tour du roi David, bâtie comme un arsenal. 1000 ronds d'âge y sont perdus, tous les pavois des héros. Les gars, je comprends pas ce qu'il dit, mais le gars, il y va, quoi. Que tu es belle, mon ami. Écoutez bien ça. Tu es parfaitement belle, sans un défaut. Ah là là. Là, c'est la phase 1. Tu idéalises l'autre. L'autre est parfaite. Sans elle, tu manges plus. Tu sens que c'est... Il y a qu'elle. Les autres, même des bombes, ce sont des ronces. Et la phase 1, c'est quoi? C'est la passion. C'est la joie d'être ensemble. C'est elle et elle seule. C'est l'indulgence. Et la clémence, pourquoi? Parce que tu es tellement indulgent, tu ne vois aucun de ses défauts. Pour toi, il n'y a aucun défaut. Vous savez, cette phase 1, c'est « Chérie, tout ce que tu veux. » Oui, ma chérie, pas de problème. On fait ce qu'il te plaît. En créole. En créole? Toi, elle est jolie. Ton dent, elle est comme le riz. Toi, elle est jolie. Ton yeux brille comme un grain de litchi. Comme un grain de litchi. Rien, il brille. Mince. Et moi, comment je fais? Moi, ils sont bleus. C'est bien. Merci, ma chérie. T'es, va, gars. Je suis réveillé à mon flot, là. Je crois que c'était un truc du style prix pour un malade. Il est en l'hôpital. Mais c'est bien. Hey, tout ce que tu veux, chérie. La partie 1, c'est tout ce que tu veux, ma chérie. Chérie, excuse-moi, donne-moi une seconde, je suis presque prête. Ça fait 1h15 que t'attends. 1h30 que t'attends, là, c'est pas grave. Moi, je connais des jeunes hommes qui ont entendu leur femme s'habiller pendant 2 heures. Dès qu'elle sort de sa chambre et elle est prête, elle fait « Ah, j'aime pas ». Elle repart s'habiller. Et là, c'est la phase 1, tu fais « C'est pas grave, chérie, je suis patient ». Et elle fait, il est cool, mon chéri, t'es, c'est avec lui, je me marie, il est trop patient, il m'attend. J'arrive, il y a 3 minutes, 3 heures, 10 ans. Ça ne me dérange pas. C'est, la phase 1, c'est quoi? L'engouement, l'emballement, l'admiration. Et tu dis, c'est le bonheur total, tout est bien, tout le monde est bien, je suis super, tu es super, tout va bien, je suis amoureux. Le problème, c'est que très vite à la fin de la lune de miel, tu commences à te rendre compte que le gars en question n'est plus Brad Pitt en cafre. Tu te rends compte que ce n'est plus vraiment ça. Et tu rentres dans l'étape 2, et le problème, c'est que l'étape 2 symbolise, et c'est là où je veux passer un peu de temps, l'étape 2 symbolise l'étape dans laquelle la plupart des couples restent bloqués. La plupart des couples restent scotchés à l'étape 2, et les divorces apparaissent dans l'étape 2. Si vous pouvez donc passer l'étape 2 ce matin, votre couple sera sauvé. L'étape 2, c'est lorsque tout d'un coup, tu ne chantes plus des cantiques, tu déchantes les cantiques. Et Salomon écrit quelques années plus tard, dans Proverbe 27, verset 15, il dit « Une gouttière continue dans un jour de pluie, c'est comme une femme querelleuse. » C'est pareil. Il dit « Celui qui retient une femme querelleuse retient le vent et sa main saisie de l'huile. » Le gars est dégoûté. Le gars fait « Là, j'ai fait une erreur. » Le délice de Salomon... s'est transformé en amère désillusion. Son ébat s'est tourné en débat. Sa romance s'est transformée en ressentiment. L'euphorie est devenue l'ennui. Son idéal est devenu infernal. L'étape 2, c'est la fête est finie. On ne joue plus. Bonjour la réalité. Le gars se lève le matin, il fait « Oh, t'es qui toi ?» Et les mots-clés et je vous dis franchement, je vais être franc, okay, je vais donner les mots que vous dites chez vous, et que vous n'osez pas dire ici. Au début du mariage, c'est « Oh, tu es belle !» Après, c'est « Oh, tu es belle !» C'est ça le problème. Et les mots qui caractérisent cette douloureuse étape numéro 2, écoutez bien, c'est la platitude, la routine, le train-train. Tu perds tout intérêt pour l'autre et même pour toi. En fait, tu te moques même de ton apparence. Au départ, tu sortais bien habillée, toujours belle, toujours pimpante. Tu prenais soin de ton maquillage, tout était bien coordonné. Fou. Tout d'un coup, tu sors avec un sac goni. Ça va de la Réunion. Les ongles ne sont pas rouges mais noirs. Ah ouais. Le Colgate a laissé place à la Colgaté. Mais vous rigolez, mais c'est comme ça. Tu dis bonjour à ton mari, il tombe syncope. C'est la routine. Et le désaccord s'installe, la contrariété, la dissension. Maintenant, tu commences à te heurter à la personnalité et au caractère de l'autre. Maintenant, tu commences à débattre, il n'y a plus d'harmonie. Tout ou presque est source de conflit, de désaccord, de dispute. Sur la défensive, tu es méfiant, tu es hostile. Tu n'es plus ouvert ou vulnérable comme avant. Tu n'as plus envie de construire. Tu refuses la communication, tu as marre d'être accusé. Tu accuses à ton tour, tu cherches à te défendre, tu mets la faute sur l'autre. Tu blâmes l'autre. Au début, Salomon disait « Tout est génial, c'est magnifique, elle n'a aucun défaut. » Et maintenant, il dit « Tout ce qu'elle fait, c'est affreux, elle m'est insupportable, je ne peux plus la tolérer. J'en ai marre, j'aurais dû faire prêtre. » La femme, elle dit « Je ne te respecte plus, tu es insensible, tu n'es plus romantique, tu es paresseux, tu ne fais rien, tout est pour toi. » Et frères et sœurs, c'est le moment le plus dur d'un mariage. Et malheureusement, ces saisons-là peuvent durer très longtemps si nous ne savons pas avoir la sagesse et l'intelligence pour discerner quels sont les vrais problèmes et aborder les vrais problèmes. C'est bon pour la vidéo ? Je vais montrer un exemple concret, rapide, d'une dispute entre couples. Vous allez voir que c'est très parlant aujourd'hui. Merci. Ça, c'est la phase 2. Pour ceux qui écoutent sur Internet, à Hosanna, tout le monde est bilingue. On parle tous anglais ici. Bon, j'espère que vous avez compris un petit peu ce qui se passe. C'est que dans une dispute comme celle-ci, ça illustre parfaitement l'étape numéro 2. Il n'y en a pas un qui essaye de comprendre l'autre. Il n'y en a pas un qui essaye de savoir où cela va les amener. Il n'y en a pas un qui est sage et discerne que ce qui se passe là va créer des problèmes pour tout le reste de la vie si ce n'est pas géré maintenant. Et à la fin de la dispute, ils se disent, c'est bon, on se sépare, on se quitte. Et dans les semaines qui viennent, ne ratez pas les dimanches, un soir, on placera tout le film. Dès qu'on aura le nouveau projecteur, un soir, on mettra le film, on fera une soirée spéciale couple, on va prier pour les couples. Mais le fait est le suivant, frère, c'est que dans la saison numéro 2, la dispute, tout ce qui va mal, tout ce qui n'est pas bien fait surface. Quelqu'un dit, le meilleur moyen d'enterrer ton mariage, c'est de creuser des trous. Et le problème, c'est que tu es déçu, tu dis, mais comment ai-je fait pour en arriver là? La plupart des couples passent par là. Demande à ton papa et ta maman. Demande à tes parents, si ce n'est pas le cas. Étape 1, pouf, magnifique. Étape 2, pouf, terrifique. Et la plupart des stars font étape 1, divorce. Remariage avec une nouvelle personne, étape 1, divorce. Étape 1, divorce. Parce qu'ils ne supportent pas l'étape 2. Étape 2, c'est les disputes. Des moments de galère, des moments de douleur, des moments où on se blesse. Étape 1, c'est tu es génial. Étape 2, c'est tu es nul. Alors à ce moment précis, ce matin, la plupart des couples que je connais, vous avez trois choix. Ou bien vous abandonnez. Le divorce frappe à ta porte et là c'est fini. Ou bien tu restes mais tu subis. Et là c'est galère parce que tu souffres et tout le monde souffre. Ou bien tu choisis de remporter la victoire. Et pour cela, il faut passer à l'étape 3. Très difficile à faire. Beaucoup de courage. Étape 3, ce n'est pas pour les hommes et les femmes qui veulent simplement avoir un mariage à l'eau de rose. Étape 3, c'est pour ceux qui ont la sagesse, du discernement, qui travaillent dur tous les jours. Étape 3 est basée sur 1 Corinthiens 13, comme vous le savez tous. L'amour est patient. Il est plein de bonté, l'amour. L'amour n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enflamme pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvénient. Il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, l'amour pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour ne faillit jamais. Nous sommes tous différents, comme vous le savez. Et si Elodie et moi avions compris les différences depuis le départ, je crois que notre couple aurait été très fort, très vite. Mais comme la plupart d'entre nous, nous étions très immatures, très jeunes, extrêmement égocentriques. Nous mettions facilement en colère, surtout moi, facilement en colère. Je me souviens d'un moment où le dimanche s'était disputé, m'avait tellement énervé que j'ai pris mon téléphone portable et je l'ai balancé par la fenêtre de la voiture. Et elle m'a dit, ben c'est malin, plus de téléphone maintenant, ça m'a encore plus énervé. Et dans la colère, tu fais comme ce couple-là, tu fais des choses qui ne sont pas forcément constructives. Tu ne penses pas au futur, tu ne penses pas à l'autre. Tu passes par un stade stupide. Et combien j'ai été longtemps, très longtemps stupide, et mon cœur saigne lorsque je vois des couples qui continuent à être stupides, comme si la stupidité n'avait pas de conséquences. J'aimerais vous dire ce matin que chaque action stupide de ma part va apporter une conséquence stupide. Chaque action est une semence. Dans un jardin, si tu ne cultives pas ton jardin, tu cultives les mauvaises herbes. Oui ou non? Si un jardin n'est pas cultivé, pas la peine d'attendre à avoir une surprise, ce sont les mauvaises herbes qui vont pousser naturellement. Il faut cultiver le jardin et voir et savoir ce que tu veux y trouver. Et dans un mariage comme ce matin, comme nous ici, j'aime ce passage qui est dans Proverbe 14, verset 1. Proverbe 14, 1 nous dit « La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. » Naturellement, c'est valable pour le mari aussi, d'accord? Mais la clé, c'est quoi? C'est que lorsque tu es sage, tu bâtis ta maison. Lorsque tu n'es pas sage, tu détruis ta maison. Tu peux être fou amoureux et être fou aussi tout court. Fou amoureux et manquer de sagesse égale destruction. Fou amoureux et rempli de sagesse égale construction. Alors ce matin, rapidement, que caractérise l'amour mature? L'amour mature, c'est un choix. Ce matin, j'espère que tu vas entendre ce message parce que c'est important pour toi, mon ami. Chaque personne ce matin dans ce lieu, vous allez vous marier, vous êtes marié. Vous avez le choix de décider, de dire « je veux que mon mariage soit un mariage réussi ». Et pour cela, je vais passer le stade 1 et le stade 2 et je vais entrer de plein fouet dans le stade 3, l'étape numéro 3. L'amour est un choix. Écoutez bien cela. Voici les quelques mots qui caractérisent l'amour mature, l'étape numéro 3. Rappelez-vous, étape 1, c'est quoi? La passion, l'intensité, le feu, la joie, l'idéalisme, la bonté. Tu fais ce que tu veux, je t'aime quand même. L'étape 2, c'est tout est sujet à dispute, confrontation, désillusion, négativité, noirceur du cœur. Tout est vraiment dur. L'étape 3, c'est les mots suivants. Tendresse et douceur. Refuser de juger l'autre. Faire attention aux émotions de l'autre. Quand tu es immature et jeune, tu ne le fais pas. Fais attention à moi et je ferai attention à toi. Si je rabaisse Elodie ou celle avec qui je suis, je me rabaisse moi-même puisque nous sommes une seule chair. Comprenez ça? Les mots clés, c'est la responsabilité. Respecte ton partenaire avec appréciation. Accepte ta responsabilité dans ton mariage. Accepte ta responsabilité de faire marcher ton mariage. Tous deux, nous sommes responsables, Elodie et moi, de la qualité de notre mariage. La compréhension, tu ne passeras jamais l'étape 2 si tu ne comprends pas que vous êtes différents. Vous ne serez jamais pareil, jamais. C'est la vie. Je suis marié depuis presque 12 ans à Elodie, ma femme, et nous sommes différents. Ce n'est pas un péché d'être différent. Je vais redire cela. Ce n'est pas un péché d'être différent. Le problème des couples, c'est que nous voulons que la femme ou l'homme soit comme nous. Tu peux comprendre l'autre sans exiger qu'elle soit comme toi. Un homme me parlait dernièrement, je ne vais pas citer de nom, mais ça illustre bien mon message. Cet homme rentre chez lui le soir, il est fatigué, et sa femme est sur son ordinateur en train de pianoter, de lire un truc, de travailler. Et je lui demande, voilà, comment ça va? Et comme la plupart des hommes à qui je pose la question, ils essaient de me mentir, ça va. Manque de peau, ça se va trop. Je dis non, mon frère, ça va pas, qu'est-ce qui se passe? Comment ça va avec ta chérie, tout ça? Et il me dit, tu sais, hier soir, je suis rentré, j'ai fait la remarque à ma femme parce que elle était encore sur l'ordinateur, je voulais qu'elle passe du temps avec moi et qu'elle me comprenne, et bref. Et je lui ai dit, mais ce que tu fais n'est pas bien. Moi, j'étais le spécialiste de ça avant. Exiger que l'autre tombe dans ton flot, vive selon tes exigences. Sois à ta botte. C'est pas de l'amour. C'est de la manipulation. Et quand tu arrives, je lui dis, tu as deux choix. Tu peux lui dire, voilà, chérie, tu vois qu'elle est dans son flow. Tu peux essayer au maximum de changer l'atmosphère afin qu'elle soit attirée par toi. Mais en la critiquant, en disant, c'est toujours ton ordinateur, il y en a marre, j'ai besoin de toi, arrête de m'énerver, ferme ça et passe du temps avec moi. Tu l'obliges à faire ce qui n'est pas dans son cœur pour l'instant. Elle se sent forcée. Et s'il y a une chose qu'une femme déteste, c'est de se sentir forcée. Oui ou non les femmes? Qui peut dire oui? Les femmes n'aiment pas ça. Bon, c'est vrai que les hommes non plus. Quelqu'un m'a dit un jour, Bruno, toi t'es marrant toi, tu n'aimes pas qu'on t'oblige. J'ai fait, toi tu aimes toi peut-être. Je dis, mon frère, tu devrais arriver à... Moi, à ta place, ce que j'aurais fait, ce que j'essaye de faire avec Elodie maintenant, je ne suis pas tout le temps, je réussis. Quand je vois qu'elle est sur ordinateur le soir, je me rends compte que c'est son petit moment à elle. Et les filles, la journée, l'école, le repas, le nettoyage. Elle est sur son ordinateur, elle est sur le lit à mes côtés. Puis il y a des fois, je sens que ce n'est pas le moment de lui parler ou de fermer son ordinateur. Mais ce que je fais, j'essaye de... Je vais à côté d'elle, je caresse ses jambes, je masse ses pieds, ses cheveux, je lui parle. J'essaye de voir ce qu'elle fait, de m'intéresser. Et tout d'un coup, souvent, elle sent elle-même. Elle ferme son Mac et là, on discute. Et je change l'atmosphère. L'amour mature, c'est quand tu arrives à un stade où tu dis, je ne vais pas forcer l'autre. Je ne vais pas obliger l'autre. Elle est différente, je suis différent. On comprend nos différences, ce n'est pas un péché. L'amour mature conduit à la sécurité et la stabilité. Est-ce que ta femme se sent en sécurité? Est-ce qu'elle sent que son mariage est stable? Est-ce qu'elle sent que le mariage est établi? Tout est possible. D'accord, malheureusement, on peut perdre la maison. Malheureusement, tout peut arriver. Que Dieu nous préserve, mais tout peut arriver. Mais malgré tout, on sent que l'unité entre nous est stable, solide. Par choix, par décision. Comme Pasteur Marc partageait avec nous il y a 10 jours de ça, il disait que la qualité, le temps de qualité ne suffit pas. Il faut le temps de quantité. Beaucoup de temps pour installer une stabilité, pour installer une sécurité, pour installer un moment dans le couple. La vérité et la confiance, c'est ce qui caractérise l'amour mature. La vérité et la confiance, parler l'un à l'autre, s'ouvrir, se dire les choses. Vous lirez chez vous, mais dans Éphésiens 4, verset 29, il est dit « Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté. » Qu'elle réponde à un besoin et aide les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Verset 31 nous dit, amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte, faites disparaître tout cela du milieu de vous ainsi que toute forme de méchanceté. C'est l'amour mature. Quand tu arrives à un stade où tu dis, bon, attends, il y a un petit problème. Là, on est énervé. Il y a un souci. Contrairement à un couple qui se dispute, on décide de s'asseoir, de voir pourquoi il y a un problème. Sagesse, maturité, discernement. On s'assoit, on parle ensemble. On ne veut pas avoir raison. Avoir raison n'est pas aussi important que d'avoir la paix. Avoir raison n'est pas aussi important que d'avoir la paix. Il y a des gens qui ne veulent pas faire la paix parce qu'ils veulent avoir raison et dans leur raison, ils perdent la raison. Alors comment faire pour atteindre ce niveau numéro 3 rapidement? Comment faire pour atteindre ce niveau de maturité? Cher ami, premièrement, s'ouvrir à l'autre. Confesse tes péchés à ton épouse ou ton époux. Partage tes fautes. Dis, tu sais quoi chérie, je galère. J'ai un problème, je n'y arrive pas. Je faute et je souffre et blablabla, j'ai du mal. J'ai du mal avec ça. Et il y a des gens qui restent dans le silence. Le silence peut détruire totalement les couples. Est-ce que ton couple a besoin de guérison? Est-ce qu'il y a un problème qui te pèse? Est-ce qu'il y a un souci qui te fait mal? Et trouve les mots, cherche, prie. La plupart des femmes, malheureusement, je ne dis pas toutes les femmes, mais beaucoup de femmes que nous connaissons, Elodie et moi, elles ne parlent pas avec leur mari, elles parlent entre elles. Et souvent, il m'est arrivé d'avoir des discussions et les femmes commençaient à dire « Si seulement mon mari était plus comme lui, si seulement mon mari était plus comme celui-là, lui, c'est un mari. Tu vois, lui, il fait le jardin. Oh, lui, il fait la cuisine. » Et le mari qui répond « Et lui, il est au chômage. » J'ai entendu ça de mes oreilles, j'ai entendu ça. Choqué, blessé, parce que lui, il fait ça. Si seulement lui, il faisait ça. Et on commence à comparer. On compare les maris comme si un mari serait meilleur que l'autre. Mon ami, chère sœur, cher frère, ouvre-toi, pas pour comparer, mais pour discuter du problème et résoudre le problème. Le silence détruit les mariages. Je parle entre vous. Ne laissez jamais le silence s'installer trop longtemps. Le silence pour méditer, oui, discuter, d'accord. Mais quand une fois que tu sais ce que tu as à dire, va voir ta femme ou ton mari, parle-lui sincèrement. Chérie, je galère. Et si vous n'arrivez pas à trouver une solution, appelez un homme ou une femme de Dieu que vous connaissez, un frère ou une sœur qui a du succès dans son mariage, pas un gars qui a eu 16 divorces, d'accord ? Quelqu'un qui a un mariage béni, la même femme depuis toute sa vie, ok ? Ne laisse pas la menace. Comme dans le couple qu'on a vu tout à l'heure, la femme disait « C'est bon, j'en ai assez, on se quitte. » La menace du divorce, le mot « divorce » ne devrait jamais exister dans une famille chrétienne. Si ce matin vous êtes divorcé, c'est fini, c'est terminé, Dieu vous restaure et vous pouvez commencer une nouvelle vie, gloire à Dieu. Ceux et celles qui disent que le divorce n'est pas biblique et qu'on n'a pas à se divorcer sont des hommes et des femmes ignorants, religieux, pharisiens, sectaires qui détruisent la vie des autres. Il y a des conditions bibliques dans lesquelles on a le droit de divorcer. Malheureusement, c'est un fait et ça arrive. Dieu n'est pas un Dieu qui te garde prisonnier de ton passé. Il y a des gens qui m'ont attaqué dernièrement, je dis en public live aujourd'hui, qui sont totalement à côté de la plaque parce que quelqu'un qui a divorcé à l'âge de 22 ans, qui n'était pas chrétien, qui ne connaissait pas Dieu, qui se convertit à l'âge de 25 ans, qui se repent, sa femme l'a quitté dans l'adultère, sa femme est partie avec un autre homme. Il a le droit aujourd'hui de se remarier devant Dieu et de commencer une nouvelle vie. Et on me dit en face, non, il faut qu'il retrouve sa première femme ou qu'il reste à jamais non marié. Le gars est carrément à côté de la plaque. Pharisien que tu es. Repends-toi ou ferme ta bouche. Je m'insurge et je me révolte contre le pharisianisme à La Réunion qui détruit des vies. Cette hypocrisie affreuse. Ces hommes-là en général et ces femmes-là en général pêchent plus que ceux qu'ils critiquent. C'est la caractéristique du pharisien. Le pharisien était tellement rempli de lui-même, il pêchait plus que la femme adultère. Amen. Parenthèse finie, ça va, tout va bien ? Ne menace pas par contre ton mari ou ta femme, en disant, si j'en ai marre, je te quitte. Non, dis, chérie, il y a un problème, on arrête là, allons bosser ensemble. En parenthèse, femme, ne menacez pas vos maris et ne faites pas du chantage. Si tu me fais ci, tu auras un rapport avec moi. Sinon, pas de rapport, c'est du chantage, de la magie blanche, c'est démoniaque, diabolique, anti-biblique. Et vous, mari, ne vous servez pas de la parole de Dieu pour obliger vos femmes à faire l'amour avec vous. Ce n'est plus de l'amour, sinon c'est de la magie blanche. Donc tous les deux, vous devez être capables de dire, attends, il y a un souci là. Qu'est-ce qu'on peut faire ? La Bible est claire, ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est que pour un temps, un temps. Pas un an, un temps. Pour vaquer à la prière, après quoi, revenez ensemble afin que le diable ne puisse pas vous tenter. Ne menace pas l'autre. Le sarcasme. Combien à La Réunion, on est extrêmement sarcastique. À La Réunion, on se moque. À La Réunion, on se moque beaucoup. Avant, moi, j'étais un très grand moqueur. Je me moquais de tout le monde. C'était ma façon d'exister. Quelqu'un tombait. Ah, il tombait. Oh. Le gars se trompe. Ah, il s'est trompé. Ah. Ça, c'est La Réunion, ça. Dans les pays anglophones, quelqu'un tombe. Les gens courent en disant « Ça va ? Tu vas bien ?» Même si c'est pas grave. À La Réunion, avant de dire « Ça va, tu vas bien ?» On rigole d'abord. Si le gars est en sang, là, ne bouge plus, là on va le voir, c'est un problème. Ça, c'est le sarcasme. Et j'ai vu dans les couples, dans les couples souvent, en public, la femme se moque du mari. En public, devant les enfants. En public, le mari se moque de sa femme, fait des blagues salées sur sa femme, en public. J'ai été coupable de ça. À ma grande honte, et j'en parle encore enfin aujourd'hui, je sais qu'elle m'a pardonné, mais c'est comme ça. Faire des blagues sur le sexe en public, on dénigre la femme, on prend pour un objet, et on croit qu'on est super, on est un homme mature, tu es idiot, mon ami, tu mérites trois claques. Chaque côté. Ce matin, je vous parle comme un père, même si je suis jeune, parce que je veux voir les couples de l'église Hosanna bénis, réussis, puissants, loin, heureux et forts. Je veux voir des jeunes se marier avec la vie sur le béton armé qu'est la parole de Dieu. Pas des couples fragiles. Nous ne devons pas avoir des couples comme ceux du monde. Les gens du monde doivent dire, waouh, quel est ton secret? Mon secret, c'est Jésus. Et la parole de Dieu, la sagesse. Ne ridiculise pas ton mari ou ta femme, ça détruit tout le monde. Le blâme, ne mets pas la faute sur les autres. Donc ça, c'est quand tu refuses de t'abandonner et d'abandonner les choses stupides que tu fais. Abandonne tout ça, arrête de faire ça, arrête de critiquer, arrête de blâmer, arrête de vouloir tout corriger, arrête de penser que tu es le meilleur, arrête de croire que c'est la faute de l'autre tout le temps, arrête, repens-toi, sois sage, discerne, étudie, écoute, confronte, et tu verras que ton mariage va réussir. Il n'y a pas de secret, mon ami. Ouvre-toi. Ah, une parenthèse pour les jeunes, rapidement ce matin. Ne pense pas que le mariage va vous rendre meilleur. Le mariage peut vous rendre pire. C'est vous qui êtes meilleur qui allez faire un mariage meilleur. Quand tu es jeune et pas encore marié, sois sûr que tu es mature et prêt pour te marier. Ouvre-toi. Abandonne les choses stupides. Ouvre-toi. Ouvre ton cœur. Partage tes choses. Il y a des hommes et des femmes qui ont 40 ans mais qui agissent comme des enfants de 10 ans. La bonne nouvelle, c'est que réellement, Dieu peut tout changer, mon ami. Tu peux décider de faire des efforts. Et aujourd'hui, Elodie et moi, je sais qu'elle peut le dire en face avec moi ce matin, nous sommes heureux d'avoir fait les efforts. C'est pas fini, il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais entre aujourd'hui, chérie, et il y a 5 ans en arrière, c'est le jour et la nuit. Aujourd'hui, on peut dire « Yes, ça en valait la peine ». Dieu peut prendre des gens totalement détruits, brisés, et en faire un mariage construit. Si vous et moi, nous travaillons avec passion, même quand c'est difficile. Au début de notre relation, Elodie et moi, au début de notre vie de mariage, nous laissions, écoutez bien ça, les différences devenir des offenses, des armes de destruction. Mais aujourd'hui, ces mêmes différences sont pour nous des points de référence, un outil de construction. Tu vois, au départ, les différences détruisent. Mais avec la maturité, les différences construisent. Parce que tu sais qu'elle est comme ça, et que moi je suis comme ça, donc on sait qu'on a deux options différentes, on a deux visions différentes, on a deux approches différentes, on peut avoir donc deux richesses, plus de richesses pour faire la même chose. Oui ou non? Ça construit. Tu peux avoir la différence comme une offense, ou la différence comme une référence. Et 1 Corinthiens 13, verset 13 nous dit... En somme, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. La plus grande d'entre elles, c'est l'amour. La foi et l'espérance de voir un couple réussi. Frères et sœurs, je suis conscient que parfois ces messages peuvent frapper en disant « Tu sais, moi je me sens nul, mon mari n'est pas chrétien, ou ma femme ne peut pas venir à l'église, je ne suis pas marié, j'ai échoué. » Attends. Ce n'est pas ton passé ni ton présent qui dicte ton futur. C'est ta faculté à appliquer la parole de Dieu. La Bible ne dit pas que tu vas réussir ton foyer à cause de ton présent. Il dit que tu vas réussir ton foyer grâce à la sagesse. Et la sagesse, tu peux l'acquérir, tu peux l'acheter. Comment ? Lis la parole de Dieu, écoute et fréquente des hommes et des femmes qui réussissent leur mariage. Viens à l'église, prie, partage ton cœur, prends les 4 premiers messages qu'on a prêchés ici. Relis-les avec ton mari et ta femme. Étudie-les, parle, discute. Et si ton mari refuse, tu seras face au choix de Dieu, mais au moins tu auras tout fait pour réussir. Amen. Et je répète, c'est vrai, sur l'exemple que j'ai vu avec ce coureur-là, il disait clairement, tu ne peux pas être le meilleur au monde sans entraînement. Tu ne peux pas juste rester ton mariage sans entraînement. Le mariage réussi va te demander beaucoup d'efforts. Beaucoup de travail. Beaucoup de patience. Et Elodie et moi, bien souvent, on se rend compte. Même nous, on fait beaucoup d'erreurs. Souvent, on se dit qu'une journée est passée, on n'a pas pris le temps de se construire. Et il faut faire attention à ça. Elle peut être prise par ses rendez-vous, par la maison, le repas, les enfants, l'école, l'éducation, moi par les réunions, les ministères, les soucis du ministère. On peut facilement se rater un jour, deux jours, trois jours. Ce n'est pas bien. Il faut être sûr que tout le temps tu gardes ta main sur le pouls de ton couple, que tu sois prêt à parler avec ton épouse tout le temps pour que la croissance soit radicale et vraie. T'en veux ce soir, ce matin? Amen. Frères et sœurs, je pleure souvent pour vous. Mais souvent. Demandant et suppliant à Dieu de ne pas nous laisser tel que nous sommes aujourd'hui. Il est hors de question qu'à Hosanna, l'église Hosanna soit une église d'hommes et de femmes remplie de la connaissance seulement, ici. Nous voulons être une église qui marche dans la révélation. Que nous soyons la manifestation de ce que Dieu est, de ce que Dieu veut. Que les gens puissent voir réellement que mon couple peut être touché. Vous savez, il y a quelques semaines de cela, j'ai eu le privilège avec Elodie de recevoir un couple, un jeune couple dans l'église, qui a un enfant, et qui est passé par un moment très difficile, qui n'a plus de finances, plus d'argent, plus rien. Alors les dimanches, on les a pris chez nous pendant 3 mois. Avant de les recevoir, on allait voir les Ayana, on a dit, est-ce que c'est possible, les Ayana, que vous donniez votre chambre à cette famille-là? Oui papa, pas de problème papa, sans problème, on fait ce que tu voudras. Et on a campé dans la maison. Pendant plus de 3 mois. Et pendant 3 mois, j'aurais mis au défi de voir si Elodie et moi, nous ne vivions pas ce que nous prêchions. Pendant 3 mois, elle a pu voir mes enfants, ma famille, tel que j'étais vraiment, en unité, en discutant, en parlant. Elle a pu voir et sentir, je pense, l'onction et la bonté de Dieu dans notre vie. Je vous mets au défi ce matin. Est-ce qu'on peut venir dans votre maison et sentir le parfum de Christ, pas la perfection, mais le parfum de Christ, l'unité, l'amour, la joie, la paix. Depuis quelque temps maintenant, Elodie et moi, nous efforçons au maximum de recevoir nos beaux-parents et nos parents le plus souvent possible à la maison, que ce soit le week-end, chaque fête, anniversaire, on veut les recevoir, on veut passer du temps avec eux. Quand j'ai eu 35 ans, il y a longtemps de cela, vendredi, je me suis rendu compte que si moi j'ai 35 ans, j'ai une grande révélation qui va vous choquer ce matin. Une immense révélation. Le jour où j'ai eu 35 ans, je me suis rendu compte que si moi j'ai 35 ans, mes parents ont plus que 35 ans. Profond. Et je me suis dit, si moi je commence à baliser et à flipper en me demandant quel héritage vais-je laisser à mes enfants. Et si moi je me dis, j'ai intérêt à passer beaucoup de temps avec ma femme et mes enfants, parce que j'ai 35 ans, dans 5 ans, j'aurai 40 ans. Je suis fort en maths. 40 ans, j'aurai 45 ans. Et mes copains me disent déjà, tu sais Bruno, bientôt 50 ans. Je dis, gars, sors de là. Non. Mais il n'a pas tort. Ça va très très vite, oui ou non? Apparemment, à 35 ans, tu vas encore plus vite qu'avant. Oui ou non? Tu arrives à 50 ans, tu fais, j'ai 50 ans, quoi. Moi, j'aimerais bien être comme cette grand-mère-là qui a 94 ans à faire la fête. C'est bon, ça, mais c'est pas sûr. Et je me suis dit, Brian, Bruno, essaye au maximum de passer du temps avec ta famille, tes parents, tes beaux-parents, frères et sœurs, Thomas. Thomas a tellement grandi, ses cheveux ont tellement grandi, on dirait Samson, quoi. Le fait est que je vous mets au défi ce matin. La fête des mères a été pour nous un choc, je suppose. J'espère. Pour ceux qui n'ont plus de maman, ils se sont dit, purée, j'aurais aimé qu'elles soient encore là. Et ceux qui ont que des mamans méprisent, ils ont dit, ah, c'est pas grave. Si c'est grave, votre maman est encore vivante, allez passer du temps avec votre maman, votre papa. Moi, mes parents, dès que je peux, comme hier, je vais courir, je les appelle pour qu'ils courent avec moi. En courir. Et les deux, mano à mano, main dans la main. Magnifique. Marche. Je tiens à vous dire ce matin, je vais finir en quelques secondes, que je veux être un pasteur qui vit, qui prêche plutôt ce qu'il vit. Mais je veux aussi vous encourager à nous rejoindre dans cette dimension de la vie où vous pouvez être, normalement dire voilà ce que je vis, voilà ce que j'expérimente. Ça demande beaucoup de travail. Si moi j'ai 35 ans cette semaine, je suis encore très jeune, je sais. Le secret, mange pas de porc. Frères et sœurs, ce matin, dans le miroir, j'ai vu des centaines de cheveux blancs. J'ai affolé, quoi. J'ai fait une couleur lundi. Et je me suis dit, Seigneur, aide-moi à donner envie ce matin au peuple de Dieu de travailler sur ce qui compte vraiment. Ce qui compte vraiment, c'est pas d'avoir 3 millions d'euros sur un compte. Ça, franchement, c'est du pipeau. C'est bien si on l'a. Ce qui compte vraiment, c'est qu'au bout de 15, 20, 30, 40 ans, tu regardes ta femme dans tes yeux, ou tes enfants, ou ton mari, ou tes parents, tu es capable de leur dire « je t'aime » et ils savent que c'est vrai, que tu es vrai, que les choses sont sincères entre vous, que les relations abondent. C'est moi ce qui parfois me fait un peu souffrir, et je vais être franc avec mon papa que j'aime beaucoup, mais quand on me voit souvent dans la rue, l'ancienne génération, je parle des gens qui ont connu mon grand-père, me disent « ah, toi tu es le petit-fils Picard, Kléber, l'homme le plus riche et le plus puissant à l'époque. » Ouais, mais quel est l'héritage aujourd'hui? Ma famille Picard est totalement démantelée. Il n'y a aucune unité entre eux. Il n'y a aucun amour réel et sincère. Il n'y a pas d'unité. Et mon grand-père Rivière, qui est parti rejoindre Moïse et Jésus et toute la bande quelques semaines de cela, lui, le jour de son départ ou presque, il a dit « Je veux mes enfants autour de moi. » En quelques minutes, quelques secondes, il y avait des dizaines de gens autour de son lit. Et tous les frères et sœurs faisaient une ronde. C'était impressionnant de voir ça. Il a pu regarder tout le monde comme ça. Tout le monde, ils ont regardé en souriant. Ils sont tous là. Il a pu parler à chacun d'entre eux. Ils sont relayés pendant des heures et des heures et des heures. Ce n'est pas une question d'argent, de célébrité ou le plus puissant. C'était un homme qui nous a communiqué le désir de vivre pour Jésus-Christ. Jusqu'à la fin de ses jours, il priait tous les matins très, 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 très tôt. 5h du matin, il était réveillé et il priait. À la fin de sa vie, Jérémy et moi, on s'est souvent relayés avec mon grand-père et on mettait la louange, l'adoration dans sa chambre. Il demandait même de la louange anglaise. Les anges étaient là. Quel héritage sommes-nous en train de travailler? Est-ce que nous sommes en train de bosser sur les finances seulement, et c'est bien, mais la parole de Dieu dit, un homme sage laisse un héritage à ses enfants. Mais Dieu parle d'un héritage pas seulement financier, spirituel, émotionnel. Alors ce matin, mes chers amis, allons prier ensemble. Mettez votre main sur votre cœur si vous le pouvez. Si vous êtes concerné par mon message ce matin, si vous sentez que vous avez envie de changer votre couple, si vous n'êtes pas encore marié, vous voulez vous remarier, vous espérez vous remarier, vous n'êtes pas du tout abandonné, vous n'êtes pas totalement fini. Non, au contraire, vous avez cette chance de pouvoir recommencer sur de bonnes bases. Recommence sur de bonnes bases. Si ton couple est en perdition, ton couple galère, tu peux encore changer ton mariage. Ce matin, Esprit de Dieu, je te demande humblement de saturer chaque couple, chaque famille, chaque mariage, chaque alliance qui a été contractée devant ton trône et devant les hommes. Que personne ne puisse mépriser l'alliance que tu nous donnes. Seigneur, la vie chrétienne commence d'abord dans notre maison. Le succès de mon foyer, le succès de ma famille, dans mes relations, influence, affecte grandement le succès de ma vie à l'extérieur. Je prie pour que ce matin, Seigneur, chaque membre, visiteur à Hosanna, c'est quelques centaines, quelques dizaines de gens qui sont venus ce matin, puissent être touchés et avoir le désir de marcher dans le respect, de construire leur mariage dans la crainte de Dieu, d'être des hommes et des femmes qui font la différence. Surtout, si l'époux et l'épouse n'est pas encore chrétien, que par notre comportement nous puissions changer l'atmosphère de la maison. Car tu n'es pas un Dieu qui détruit, tu es un Dieu qui construit. Tu n'es pas un Dieu qui brise, tu es un Dieu qui restaure. Et même quand tu corriges, Seigneur, c'est par amour. Ce matin, corrige-nous s'il le faut, mais change-nous de l'intérieur, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous prions. Tu m'en dis bien fort ? Amen. Amen, amen, amen. Longue gloire, au revoir, son frère et soeur. Amen. Je vous donne tout mon cœur, je m'excuse pour l'heure, j'essaye de finir en ce moment à 10h30, on va bosser là-dessus pour changer un peu le flow et les messages pour que vous soyez libre plus tôt le matin. Dieu fait des grandes choses, sûrement ce soir je vais en parler un peu en ce qui concerne le futur de La Réunion peut-être, mais en tout cas c'est énorme ce qui se passe en ce moment dans l'église à La Réunion. Ne baissez pas les bras, les prières que nous avons faites pour l'unité à La Réunion commencent à se manifester avec puissance. Non mais vous ne comprenez pas encore, parce que moi je connais ce qui se passe, vous non. Mais c'est extraordinaire ce qui se passe, extraordinaire. Depuis une semaine, savez-moi, avons le privilège de voir des pasteurs qui sont des pasteurs clés à La Réunion. On a eu des grandes réunions de plusieurs heures à chaque fois, 2, 3 heures, 4 heures de discussion sur le futur de l'Église. Nous sommes en train d'organiser, par la grâce de Dieu, ou d'aider en tout cas, d'organiser cette unité à La Réunion qui va se faire non pas avec des beaux titres ronflants, mais une unité spirituelle que Dieu a toujours voulu avoir. Et cela est en train de se dérouler sous nos yeux. Notre génération verra l'unité à La Réunion. D'accord. Donc, pour finir, priez pour moi, parce que je vais... Certainement, devoir aller dans différentes églises pour demander pardon pour tout ce que j'ai pu faire ou dire qui a pu blesser les pasteurs de l'époque, et j'irai le faire publiquement. Et on va filmer, on va enregistrer. Et je m'en fiche de savoir ce que les gens pensent de moi. Je veux avoir une réputation dans le ciel. Et je veux que rien, la moindre chose puisse m'arrêter. Cette semaine, un pasteur est venu me voir en me disant: tu sais, tel pasteur est en colère avec toi parce que tu as dit telle chose dans le passé. Je dis: mince, oui, je l'ai dit, j'aurais pas dû le dire. Et tu sais, il t'en veut, il est blessé. Je dis: je vais le voir, on va le voir, on reste une réunion, appelle-le, je prierai avec lui, je voudrais pardon de tout mon cœur, que Dieu me pardonne, qu'il me pardonne, et qu'on avance ensemble. Et bien, il s'avère que Dieu commence à faire ça avec beaucoup de pasteurs. Quand je dis beaucoup, c'est... Hein, Steve ? Au moins 7 ou 8 dans le sud, il y a 7 ou 8 pasteurs en train de se repentir en ce moment même. Yeah ! Donc, ce soir, on aura, à mon humble avis, une soirée extrêmement puissante. J'espère vous voir ce soir. Laissez-moi vous dire une chose importante, frères et sœurs. Souvent, les gens viennent qu'à un seul culte, que le matin ou que le soir. C'est dommage, parce que le matin, on enseigne. Et le soir, c'est souvent des bombes prophétiques. Et quand vous ne venez pas aux deux messages, bien souvent, vous enlevez une croissance dans le spirituel. Donc le matin, on enseigne un peu plus. Ce soir, je pense vraiment qu'on va prier pour des miracles, des signes, des prodiges. On va voir ce que Dieu veut faire. Je sens qu'il y a un flot de puissance. Venez de nombreux, emmenez des hommes et des femmes qui ne connaissent pas Christ. On va prier ensemble et on va prier pour que Dieu nous montre ce qu'il a pour nous. Mais ça va être extrêmement puissant. Je ne vais pas trop dire en ce moment ce que j'ai déjà dans mon cœur, un message. Ça va être extrêmement puissant. Passez une bonne fin de journée. Je vous aime. Je demande à mes leaders, à mes coachs, de faire une ligne si vous êtes devant l'estrade ici. Si l'église a besoin de prière, vous êtes libre de venir parler aux coachs qui seront là devant pour prier pour vous. Ils ont l'onction dans leur vie. Ils sont loin, proches de Dieu. Merci à tous. Amen. Merci.